Brillante extrême. L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Duarte Mesquita d'Acuña.
Chers auditeurs, c'est un véritable voyage dans le temps que vous êtes conviés au cœur de cette octave de Pâques. Cela fera 80 ans cet été que le Saint-Siège et la Chine entretiennent des relations. Et pour comprendre le sens de cet anniversaire, nous avons le grand plaisir de recevoir le père Landry Védrenne, des Missions étrangères de Paris. Le père est doctorant à l'Université catholique de Paris. Bonjour, père Landry Védrenne.
Bonsoir Duarte, merci de me recevoir aujourd'hui.
Bien père, réjoui de votre présence, nous partons aux nouvelles de l'Église asiatique avec notre chère Louise Pignat. Bonjour Louise.
Bonjour Duarte.
Alors Louise, ce sont les catholiques vietnamiens qui sont à l'honneur, eux qui entretiennent les traditions pascales locales.
Oui, dans les provinces de Quang Tri et Tua Tien Hue, dans le centre du Vietnam, de nombreux fidèles gardent vivantes des traditions pascales locales. Ainsi, les fidèles conservent les cierges bénis durant la vigile pascale sur leurs autels domestiques. Nicolas Nguyen Lan, un responsable de conseil pastoral, en témoigne. Les cierges symbolisent la présence dans notre maison du Christ ressuscité qui nous protège dans les temps difficiles. Lorsqu'en 1953, leur village a été frappé d'une inondation massive et que ses parents ont allumé un cierge béni avant de prier le chapelet dans le grenier, l'eau s'est retirée et leurs cultures ont pu être sauvées. Le soir du nouvel an lunaire de 1968, quand sa famille s'est rassemblée pour prier pour la nouvelle année devant le coin prière familial avec des cierges allumés, un obus a éclaté à quelques mètres, mais ils s'en sont sortis sains et saufs. Les cierges de Pâques sont donc considérés comme des trésors depuis les premiers catholiques convertis dans la région. Les paroissiens pêcheurs, eux, emmènent en mer les grains d'encens qui ont été implantés sur le cierge pour que le Christ les protège et les bénisse. D'autres traditions demeurent comme inviter chez soi des croyants d'autres religions au repas de Pâques ou encore nettoyer et décorer les tombes de leurs ancêtres en signe de la résurrection du Christ.
Une nouvelle moins joyeuse puisque des soldats birmans ont investi pendant 3 heures la cathédrale de Mandalay.
Oui, c'était le 8 avril à Mandalay. Une centaine de militaires ont envahi la cathédrale du Sacré-Cœur. Selon une source ecclésiale locale, les soldats ont prétendu avoir reçu des informations à propos d'armes dissimulées. Monseigneur Marco Tinvin, l'archevêque de Mandalay, ainsi que plusieurs prêtres et fidèles sont restés bloqués dans la cathédrale. Mais personne n'a été blessé ou détenu. Les soldats auraient également demandé où l'or et l'argent se trouvaient. Le vicaire général a tenté en vain d'expliquer que le seul argent disponible venait des dons destinés aux pauvres. Les soldats sont partis après presque 3 heures. Monseigneur Tinvin a annoncé une heure d'adoration eucharistique mensuelle pour la paix en Birmanie. L'évêque est l'une des principales voix au sein de l'église locale à avoir ouvertement soutenu les militants pro-démocratie jusqu'à descendre avec eux dans la rue.
Merci Louise. Nous retrouvons le père Landry Védrenne pour aborder avec lui un sujet passionnant, celui de l'histoire de l'établissement des relations sino-vatican. Né en 1976 dans les Yvelines, notre invité a passé 6 ans à Taïwan, où il a étudié les relations sino-vatican dans le cadre de son mémoire de master en sciences politiques à l'Université nationale des sciences politiques de Taïwan. Un sujet qu'il prolonge aujourd'hui en écrivant une thèse sur le Saint-Siège et la Chine sous Pie XII. De retour d'un séjour de recherche dans les archives du Vatican, le père a la gentillesse de retracer avec nous l'historique de l'établissement de ces relations. Alors, père Landry Védrenne, cette année, on l'a dit, marque le 80e anniversaire de l'établissement des relations entre le Saint-Siège et la République de Chine. Pouvez-vous nous expliquer comment le pape et le gouvernement de la République de Chine ont établi des rapports diplomatiques en 1942 ?
Oui, en effet, cela n'a pas été si simple. Et en fait, il faut revenir un peu dans le temps, c'est-à-dire au XIXe siècle, pour comprendre comment la République de Chine et le Saint-Siège ont pu élever leurs rapports au niveau diplomatique en 1942. En fait, à la suite de ses défaites dans la première et seconde guerre de l'opium contre la Grande-Bretagne et les puissances occidentales, alors je rappelle, la première guerre de l'opium, la Chine se retrouve en guerre contre la Grande-Bretagne entre 1838 et 1842. Et la seconde guerre de l'opium, la Chine se retrouve en guerre contre la Grande-Bretagne et d'autres puissances occidentales entre 1858 et 1860. La Chine perd ses 2 guerres de l'opium et elle est contrainte de signer des traités bien connus sous le nom de traités inégaux. Et donc, la Chine doit débourser d'énormes indemnités à ces pays et a en particulier concédé à la France le fameux protectorat français sur les missions chrétiennes. Ce protectorat concerne à la fois tous les catholiques étrangers, c'est-à-dire tous les missionnaires étrangers, qu'ils soient français, italiens, portugais, espagnols, allemands, tous les catholiques étrangers, missionnaires religieux, religieuses, et les catholiques chinois dans tout l'ensemble de l'Empire de Chine.
Donc la France représentait une puissance protectrice sur les missions catholiques en Chine ?
Tout à fait. On pourrait dire qu'elle s'est octroyée ce rôle à la place du Saint-Siège, et cela a complètement faussé la perception des Chinois sur le christianisme, qui était considéré comme une religion étrangère, mais aussi comme un agent des puissances étrangères. Cela a alors créé une grande confusion parmi les Chinois et attire en conséquence une haine sur les chrétiens et une méfiance par la population locale envers l'Église catholique, considérée comme agent des puissances étrangères.
Alors nous sommes au cœur du Second Empire. Pourquoi ce protectorat religieux ?
La raison est claire. Ne pouvant rivaliser avec l'Angleterre et sur le plan commercial, la France espère trouver dans la protection des missionnaires un instrument d'influence susceptible de contrebalancer politiquement l'influence commerciale des Britanniques en Chine. Par ce protectorat, nous le comprenons, la France veut aussi s'imposer partout sur le territoire chinois via les missions catholiques présentes en Chine. Autrement dit, la diplomatie française considère les missionnaires comme de précieux relais d'influence.
Et alors, Père Landry Védrenne, comment comprendre la réaction du Saint-Siège ?
Voyant cela, le Saint-Siège veut absolument s'affranchir du rôle de la France et désire libérer les missions de ce fameux protectorat si pesant et si lourd. Ainsi, en 1860, le pape Pie IX entreprend des démarches auprès de l'empereur Xianfeng et demande d'établir des relations directement avec la Chine. Le Saint-Père a même choisi un visiteur apostolique en la personne de Mgr Louis Pelletat. Pie IX propose une sorte de convention avec l'empereur chinois pour protéger tous les catholiques en Chine. Il lui adresse une lettre disant, alors je vais vous lire cette lettre, « Le Saint-Siège souhaite vivement manifester sa bonne volonté envers votre majesté et désire rendre possible la mise en place d'une entente entre votre majesté et le Saint-Siège. Nous prions de tout cœur votre majesté impériale d'accorder une protection à tous les catholiques qui vivent dans les immenses zones de votre empire, ainsi que tous les ouvriers évangéliques, c'est-à-dire les missionnaires européens, de sorte que la foi catholique puisse être prêchée librement dans ces régions. Hélas, malheureusement, en raison de la mort de l'empereur Xianfeng en 1861 et aussi du décès de Mgr Pelletat l'année d'après, en 1862, la lettre n'a jamais pu atteindre sa destination. Quel dommage !
Et donc une lettre qui n'a pas eu le résultat escompté, est-ce qu'on en est resté là et qu'est-ce qui s'est passé après cette aventure ?
Eh bien, le Vatican ne s'est pas arrêté là, ni la Chine. 20 ans après, en 1881, c'est au tour de la Chine de faire les démarches envers le Saint-Père. Et c'est l'empereur Guangxu qui insiste auprès du Saint-Siège pour avoir des relations diplomatiques. La cour de Pékin voulait en effet que les affaires de l'Église de Chine soient définitivement séparées de la politique coloniale de la France. Le pape Léon XIII accepte cette demande du gouvernement impérial et décide d'envoyer en 1886 un nonce apostolique en Chine. Cependant, le gouvernement de la France de la Troisième République s'y oppose de façon virulente et menace même de rompre ses relations diplomatiques avec le Saint-Siège.
Alors une histoire qui donne place à un personnage, l'impératrice douairière Cixi.
Alors oui, pour l'anecdote, l'impératrice douairière Cixi avait envoyé ses vœux à Léon XIII à l'occasion de ses 90 ans en 1900. Fait rare et exceptionnel que nous pouvons souligner de la part de la cour de Pékin envers le souverain pontife. Cela en dit long sur le désir de l'Empire de Chine de se rapprocher du Saint-Siège. Hélas, il y a toujours ce problème du protectorat français et ce problème de la confusion entre mission catholique et puissance occidentale.
Et comment est-ce que le pape va vivre cet échec ?
Ah oui, cet échec, on peut parler d'un échec diplomatique. Hier, justement, je me suis rendu aux archives diplomatiques du Quai d'Orsay et j'ai retrouvé une lettre de l'ambassadeur de France près le Saint-Siège de cette époque qui écrivait au ministre des Affaires étrangères de France. Il lui rapportait que Léon XIII lui avait confié que cette concession au refus de la France, cet échec diplomatique, a été un véritable sacrifice cruel pour lui, le plus grand chagrin de son pontificat. Je voudrais aussi revenir sur l'impératrice douairière. Vous savez, l'impératrice Cixi, qu'on appelait le vieux Bouddha. Elle qui avait envoyé ses vœux à Léon XIII. Elle qui avait montré tant de sympathie pour le pape. Elle voulait en même temps supprimer tous les étrangers et avec son accord, les boxeurs, vous rappelez la révolte des boxeurs, oui, les boxeurs dont le symbole est un poing fermé, d'où le surnom de boxeur, avec son accord et l'accord des troupes impériales, les boxeurs tuèrent sans pitié les missionnaires étrangers et les catholiques chinois accusés de collaboration. Ainsi, de nombreux missionnaires ont été tués par des foules en colère et des dizaines de milliers de Chinois chrétiens considérés comme des traîtres furent massacrés.
Donc une situation qui va faire réagir le Saint-Siège. Quelle va être sa volonté ?
Tout à fait. Le Saint-Siège veut absolument se rapprocher de la Chine pour stopper la persécution des missionnaires et des catholiques chinois à cause de cet amalgame entre l'Église et les puissances occidentales. Le pape désire au plus vite mettre fin à cette confusion causée par le protectorat français.
Merci, Père Landry Védrenne, prêtre des missions étrangères de Paris. Vous êtes doctorant à l'Institut catholique de Paris. Voilà, merci de nous expliquer le sens de ce 80e anniversaire des relations entre le Saint-Siège et la République de Chine. Nous écoutons à présent un extrait d'une musique orientale, les chrysanthèmes.
笑沧桑，天未
Nous avons entendu un extrait d'une musique orientale, le chrysanthème, et nous retrouvons le père Landry Védrenne, prêtre des missions étrangères de Paris et doctorant en relations internationales à la faculté des sciences sociales et économiques de l'ICP, pour nous plonger bien évidemment avec lui dans le 80e anniversaire des relations sino-vaticanes célébrées cette année. Alors père Landry Védrenne, nous venons d'évoquer avec vous la volonté du Saint-Siège, très marquée, de se rapprocher de la Chine au début du XXe siècle.
Oui.
Qu'est-ce qu'en pense la France de la Troisième République ?
Eh bien, le Vatican se trouve un peu coincé entre son désir de se rapprocher de la Chine, entre le protectorat français sur les missions et le gouvernement de la Troisième République. Ce gouvernement est de plus en plus virulent envers l'Église. N'oublions pas qu'en France, il y a en 1905 la loi de séparation de l'Église et de l'État et aussi la rupture des relations diplomatiques entre le Vatican et la France. Et malgré tout, le gouvernement de la Troisième République, ce fameux gouvernement laïque, veut conserver son pouvoir sur l'Église catholique en Chine.
Alors c'est une date qu'il faut retenir. En 1911, abdique l'empereur Puyi.
En effet, le 10 octobre 1911, une rébellion militaire met fin à la dynastie Mandchou, la fameuse dynastie Qing, vieille de 250 ans, et l'empereur Puyi abdique le 12 octobre 1911. Cela laissera place à la République de Chine, qui fut proclamée le 1er janvier 1912. Il y a certainement quelque chose à faire et à négocier entre cette jeune République chinoise et le Saint-Siège. Le pape Benoît XV, élu en 1914, décide d'accélérer le processus des relations entre la Chine et le Saint-Siège. Mais bon, tout n'est pas si simple. Et ce n'est qu'en 1918, au cours de la Première Guerre mondiale, que le gouvernement de la jeune République de Chine propose au Vatican de nouer des relations diplomatiques. Et Benoît XV, comme jadis Léon XIII, accueille avec beaucoup d'enthousiasme cette nouvelle initiative de Pékin.
Un moment choisi par la Troisième République pour de nouveau s'opposer à ce processus.
Exactement. Une fois encore, le gouvernement français de la Troisième République oppose son veto alors que les rapports diplomatiques avec le Saint-Siège sont rompus depuis 1905. Le pape Benoît XV finit, tout comme Léon XIII, par renoncer d'envoyer un nonce apostolique en Chine. Pourquoi ? En raison de cette opposition de la France de la Troisième République, mais aussi par la crainte de réactions négatives de la part des catholiques français. Et, il faut le dire, en raison de l'opposition de certains missionnaires qui étaient très satisfaits du protectorat français en Chine. Vous imaginez l'état des missions entre certains missionnaires qui s'arrangent bien du protectorat français et d'autres missionnaires qui veulent s'en débarrasser et qui encouragent la formation et l'établissement du clergé local. Au lendemain de la Grande Guerre, Benoît XV publie en 1919 la lettre encyclique Maximum Illud, la lettre encyclique éternelle, la grande lettre des missions pour redonner un nouveau souffle missionnaire, une réforme générale de la mission. On pourrait dire une naissance à une nouvelle ère de la mission. En même temps, Benoît XV nomme Monseigneur Butte de Guebriant visiteur apostolique en Chine.
Alors peut-être peut-on rappeler pour nos auditeurs qui est ce fameux Monseigneur de Guebriant.
Alors un grand cocorico, Monseigneur Butte de Guebriant est un évêque français et c'est même un évêque des missions étrangères de Paris. Il était vicaire apostolique de Canton, ensuite il a été nommé élu premier supérieur général des missions étrangères de Paris. Donc en 1919, Benoît XV nomme Monseigneur Butte de Guebriant, qui est vicaire apostolique de Canton, donc qui est déjà présent sur le territoire chinois. Il le nomme visiteur apostolique en Chine. On ne va pas chercher un visiteur apostolique en Chine qui est à Rome. Et le pape Benoît XV choisit un évêque qui est déjà sur le territoire chinois. Donc Monseigneur Butte de Guebriant est chargé de faire la visite canonique de toutes les missions catholiques en Chine, du sud au nord. Et cette mission d'information et d'inspection obtient un véritable succès et ouvre la voie à Rome pour envoyer enfin un représentant du Saint-Père en Chine. Malgré toutes les difficultés, le Saint-Siège ne lâche pas prise et décide finalement d'envoyer non plus un nonce apostolique, mais un délégué apostolique pour établir ses premiers liens avec la Chine en 1922.
Alors, père Landry Védrenne, pour être tout à fait certain de comprendre pourquoi un délégué apostolique et pas un nonce. Qu'est-ce qu'un délégué apostolique ?
Alors, un délégué apostolique, c'est un représentant du Saint-Père. C'est le représentant du Saint-Père auprès du corps épiscopal d'un pays, auprès des évêques, des prêtres, des religieux et des catholiques d'un pays. Le délégué apostolique n'a aucun mandat politique ni diplomatique auprès des autorités gouvernementales. C'est un représentant sans rang diplomatique. Le Vatican, finalement, sera en mesure d'établir ses premiers liens avec la Chine en 1922. Alors, 1922, c'est l'année suivant 1921, bien sûr. Et 1921 marque le rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Nous nous souvenons que l'année dernière, nous avons célébré le centième anniversaire des relations entre la France et le Saint-Siège. En fait, le centième anniversaire de la reprise des relations diplomatiques.
Voilà, interrompue à l'occasion de la loi de séparation
exactement,
de 1905.
Exactement. Et alors, du coup, en 1922, quand ça se passe mieux avec le gouvernement français, le Vatican essaye de négocier l'envoi d'un délégué apostolique, non sans difficulté, et finalement, la France donne son accord, et le pape envoie Mgr Celso Costantini en Chine comme délégué apostolique, et cela fera 100 ans exactement au mois d'août prochain que le premier délégué apostolique, Celso Costantini, est arrivé en Chine.
Et quelle sera sa feuille de route alors dans ce contexte ?
Alors, Pie XI donne comme feuille de route à Mgr Costantini la lettre encyclique de son prédécesseur, celle que j'ai nommée tout à l'heure.
Maximum Illud.
Exactement. Et ce sera la mission de Mgr Costantini.
Alors, cette mission, elle va consister en quoi plus précisément, Père Landry Védrenne ?
Pie XI, appelé aussi le pape des missions, voulait, par cette lettre encyclique de Benoît XV, renouveler la compréhension des missions chrétiennes en Chine, prendre soin des églises locales en tenant compte de leur propre culture et établir une hiérarchie locale, c'est-à-dire des évêques chinois locaux. Mgr Costantini avait non seulement la mission d'établir des relations directes entre l'Église et la Chine, mais aussi la mission spécifique, tout d'abord de remodeler la théologie en Chine, de libérer le Saint-Siège du système du protectorat et de se débarrasser de l'influence des puissances européennes. Notons que c'est Mgr Costantini qui convoque le concile de Shanghai de 1924 pour refaire, repenser, remodeler la théologie en Chine, l'architecture des églises, la liturgie, la culture chinoise qui est prise en compte, et c'est lui qui fonde la création de l'université catholique Fujian. Mgr Costantini restera en Chine jusqu'en 1933. Il aura travaillé en tout pendant 11 ans, de 1922 à 1933, pour accomplir sa feuille de route, et il continuera ce travail à Rome comme secrétaire de la propagande de la foi.
L'aventure ne va pas s'arrêter là. Est-ce que le pape Pie XI va envoyer d'autres délégués apostoliques ?
Tout à fait, Duart. Pie XI envoie un deuxième délégué apostolique en la personne de Mgr Mario Zanin, qui restera en Chine de 1933 à 1946. Et c'est au cours du mandat de ce deuxième délégué apostolique que le pape Pie XII établit des relations diplomatiques avec la République de Chine au milieu de la Seconde Guerre mondiale en octobre 1942. Lorsque l'influence française se retrouve moins puissante suite à des changements politiques internationaux et où la France réalise qu'elle ne peut plus tenir l'Église de Chine. Nous célébrons donc cette année le 80e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République de Chine.
Alors nous avons évoqué le pontificat de Pie XII, pontificat qui correspond à la période que vous étudiez pour votre thèse.
Tout à fait. Oui, en effet, Pie XII et la Chine, cela correspond au sujet de ma thèse. Aujourd'hui, nous avons accès aux archives de Pie XII qui ont été ouvertes il y a 2 ans. Elles ont été ouvertes le 2 mars 2020 et 6 jours après, il y a eu la fermeture de la salle de lecture des archives vaticanes en raison de la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, nous pouvons y aller sans souci et ces archives de Pie XII nous permettent tout d'abord de mieux comprendre l'établissement des relations sino-vaticanes en 1942 et de mieux comprendre les défis, les difficultés, les urgences, les oppositions rencontrées et les rapprochements tant espérés. le premier envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République de Chine, près le Saint-Siège, présente finalement, j'allais dire, ses lettres de créance, enfin, parce qu'on a attendu ça depuis 1860, il présentera enfin ses lettres de créance au pape Pie XII le 25 février 1943. Le Vatican ne demande pas la réciprocité immédiate des relations. Et pourquoi ? Parce qu'il fallait d'abord mettre officiellement fin au protectorat, ce qui advint au terme d'un accord conclu entre la France et le Saint-Siège. La France, le gouvernement provisoire de la République française, à la fin de la guerre, par l'intermédiaire de Mgr Roncalli, nonce à Paris, Mgr Roncalli qu'on connaît bien, qui est le bon pape Jean XXIII, Saint Jean XXIII, et finalement, une internonciature est établie en Chine en 1946, et ce sera Mgr Antonio Ribéry qui sera envoyé comme premier internonce en Chine en 1946.
Eh bien, merci, Père Landry Védrenne, prêtre des missions étrangères de Paris et doctorant en relations internationales à la faculté de sciences sociales et économiques de l'ICP, de nous avoir permis de comprendre le sens revêtu par le 80e anniversaire des relations entre le Saint-Siège et la Chine, célébré cette année. Merci, Père.
Merci, Duarte.
Voilà, quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orient Extrême.